Bonjour chers auditeurs, Marie et moi nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année sur Couleur FM avec notre émission Au fil des notes. Alors nous vous rappelons qu'une adresse mail est à votre disposition pour nous faire des suggestions, des informations sur des spectacles, des critiques positives ou négatives. Nous ne manquerons pas de vous recontacter bien évidemment. Vous trouverez cette adresse mail sur le site Couleur FM dans notre rubrique Au fil des notes. Alors aujourd'hui nous allons... Nous avions envie de vous parler des chefs d'orchestre, ça, pour changer un petit peu, hein, pas forcément toujours les musiciens. Le chef d'orchestre est une pièce maîtresse et indispensable à l'interprétation des morceaux de nos grands compositeurs. Et bien évidemment, nous allons vous parler de l'incontournable Herbert von Karajan. Alors Marie, bonjour déjà.
Bonjour Valérie.
Bien passé ces
bonjour
petites vacances.
Laurent.
Bonjour.
Oui, très bien, très bien.
Donc Marie, il y a tout juste 25 ans, disparaissait le grand Herbert von Karajan.
Oui Valérie, et en cette année anniversaire, eh bien, nous tenions à vous parler de ce génie à l'odeur de soufre, ainsi que sœur Isaiah Berlin, philosophe et historien, décrivait le controversé chef d'orchestre autrichien qui est né à Salzbourg le 5 avril 1908 et mort à Hanif le 16 juillet 1989.
Alors Marie, qu'est-ce qu'il nous reste de ce grand Karajan ?
Alors, d'abord ce qu'il était déjà de son vivant, l'image. Savamment mis en scène par lui-même ou par le très officiel photographe Sigrid Lauterwurzer, au travers de portraits qui façonneront, durant la majeure partie de sa carrière, son identité visuelle. Herbert von Karajan, c'est ce visage de patricien romain statufié dans le marbre, dirigeant les yeux fermés et sans partition, donnant à voir et à entendre une puissance proprement mentale, tout entière tendue vers la conduite du meilleur orchestre du monde, l'Orchestre Philharmonique de Berlin.
C'était un personnage impressionnant dans son...
Charismatique et impressionnant. Et il avait une façon emblématique de diriger les yeux fermés. Alors, il y avait une part de sincère concentration, n'en doutons pas, mais il y avait aussi certainement une part de posture.
Un jeu.
Oui, Karajan alla même au début de sa carrière jusqu'à se faire conduire les yeux déjà clos, depuis sa loge jusqu'au pupitre, appuyé tel un aveugle sur le bras d'un assistant.
Presque du théâtre.
Certainement, c'était un grand comédien.
Alors on dit de lui, Marie, qu'il fut pionnier dans le domaine des concerts filmés et il créa sa propre société de production audiovisuelle. Donc c'était un grand metteur en scène même, on peut oser dire ça.
Oui, oui.
Pour donc immortaliser de larges pans de son répertoire dans des films où il apparaît toujours comme le personnage central, un peu égocentrique on va dire aussi. Hein.
Légèrement, oui.
Alors, l'image du maestro assoluto appelle immédiatement la question de son authenticité. Cette image de Karajan, n'est-ce que l'art de l'image, finalement ? Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est l'importance du chef d'orchestre. Quel qu'il soit, il nuance les sonorités des instruments en établissant la prépondérance de tel ou tel instrument et le phrasé musical, l'accentuation aussi, le rythme, et donne à voir un visage de l'œuvre qui correspond à sa conception propre. Donc, une œuvre unique possède ainsi autant de visages que d'interprètes. Ce qui explique que le débat autour d'une œuvre ne soit finalement jamais terminé. Même si le compositeur est mort depuis 2 siècles, elle ne s'arrête pas.
Complètement, hein? Oui. Et en dépit de son passé nazi qu'il a poursuivi, oui. Karajan a régné de 1950 jusqu'au jour de sa mort comme le maestro tout-puissant de l'Europe. Le der chef, comme il aimait à se faire appeler.
C'est un peu le côté sombre de Karajan,
Marie. Qui a apporté beaucoup de controverses, les pour et les contre.
Tout à fait. Alors Marie, parle-nous un petit peu de sa vie, de son parcours sur cet homme. Qu'a-t-il fait ? Comment est-il arrivé à cela ?
Oui, Herbert von Karajan est le second fils d'un médecin d'origine gréco-macédonienne. L'enfant chétif qu'il était s'est imposé un orgueil inébranlable et un goût marqué pour la perfection, car il a dit plus tard qu'enfant, il devait toujours veiller à dépasser les autres, aussi bien dans son cursus que par la taille, parce qu'il se trouvait petit, et ça lui a toujours beaucoup coûté. Alors, il travaille le piano, mais gros problème, les tendons de ses doigts ne sont pas assez souples et sont sujets à l'inflammation. Il est obligé de s'interrompre fréquemment. Oui, c'était très dur pour lui. Mais avec la volonté dont il fait preuve, à 16 ans, il maîtrise des œuvres difficiles, comme le concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt. Malheureusement, une tendinite brise ses espoirs de pianiste.
Pas de chance, là.
Mais il continue. Il décide alors d'embrasser la carrière de chef d'orchestre avec toujours ce rêve, pour l'étudiant qu'il est, de devenir un personnage important.
C'est quand même... Ça se retrouve souvent, ce côté égocentrique, être au centre des choses.
Et puis là, c'était vraiment dans sa tête, c'était ancré. À 20 ans, il devient ainsi responsable de l'Opéra d'Ulm, scène provinciale, où il expérimente un vaste répertoire, Mozart, Wagner, Strauss et les autres, avec un orchestre de 17 musiciens.
Oui, alors c'est effectivement assez impressionnant. Hein, mais on sait aussi qu'en 1935, ça, on parlait du côté sombre du personnage, et bien là, c'est le côté très très sombre. Il adhère au parti nazi, hein, quand même, il faut le dire, et sans état d'âme. Hein. Ça, c'est de son aveu à lui. Donc, c'était sa carrière qui comptait. Il était prêt à tout. Il explique que, pour sa défense, hein, que 3 jours avant sa nomination comme chef de l'orchestre symphonique du théâtre d'Aix-la-Chapelle, le chef de district est venu le voir en lui précisant qu'il restait une dernière formalité à remplir. Et laquelle? Eh bien, comme ça se passait aussi en Russie d'ailleurs, on adhérait au parti communiste, et bien là c'était son adhésion au parti nazi, sans quoi, et bien effectivement, il n'aurait pas été habilité à occuper cette fonction. Alors, dit-il, j'ai signé. C'est grave quand même, même très grave. Bon, cela fait, malgré tout, son génie quand même, un peu froid dans le dos quand même, hein. On a quand même, ça veut dire que les gens sont quand même prêts à tout,
pour le succès, ça c'est quand même grave.
Donc jusqu'où est-on capable d'aller pour réussir, c'est la question qu'on peut se poser. Et nous allons écouter donc sur votre radio préférée, que vous retrouvez maintenant en ce début d'automne très ensoleillé, je dirais presque été indien, Couleur FM 97.1. L'extrait musical que nous allons vous passer, c'est la marche hongroise de la damnation de Faust d'Hector Berlioz par le Philharmonique de Berlin.
Thank you.
Eh bien voilà, si nous étions encore un petit peu en vacances, Marie, je crois que là, ça nous a réveillés. Dynamisons-nous avec cette marche hongroise.
Voilà, et comme je le signalais, hors micro, c'est un morceau que j'aime beaucoup, puisque des élèves de l'école de l'Opéra de Paris jusqu'aux grandes étoiles, c'est leur marche du défilé lors de la présentation de toute l'école et de toutes les étoiles. Donc voilà,
un petit côté classique, danse. Voilà, c'est bien. Donc Marie, on revient après ce superbe morceau sur la vie de Karajan, pour en parler de façon un petit peu différente de ce que l'on vient de dire, voir le côté brillant du personnage.
Oui, en 1938, premier grand triomphe à Berlin, où avec le Philharmonique, il interprète Tristan et Iseult de Wagner, qu'il dirige sans partition, et une critique qui va changer sa vie. La presse titre « Le miracle Karajan ». L'auteur de cet article écrit « Cet homme, c'est le chef d'orchestre le plus extraordinaire du siècle. Ce qu'il a montré hier défie l'entendement. » Willem Furtwängler est furieux. N'oublions pas qu'il est encore le chef attitré du Philharmonique.
Oui, pas dû lui plaire du tout, monsieur.
Non. Et en 1939, Karajan s'attire l'inimitié de Hitler lors d'un concert de gala donné en l'honneur des monarques yougoslaves.
Ce qu'il ne fallait pas faire.
Tout à fait.
On ne contrarie jamais le Führer.
Non, du tout. En raison de l'erreur d'un chanteur, il perd le fil des maîtres chanteurs du compositeur Wagner, qu'il dirigeait bien sûr sans partition, comme son habitude. Les chanteurs cessent alors de chanter et dans la plus grande confusion, le rideau tombe. Furieux, Hitler donne cet ordre. « Moi vivant, Herr von Karajan ne dirigera jamais à Bayreuth. »
Voilà, alors là, après cela, il n'est plus souhaité aux côtés de Hitler. Ce qui a dû quand même le décevoir, puisqu'il avait quand même, il s'était engagé à ses côtés, on va dire. Et en 1945, il fuit le Troisième Reich en ruine. Courage, fuyons. Rentrant en Allemagne après la guerre pour faire face aux tribunaux de dénazification, qui prit 2 ans, mais jamais il ne perdut son assurance. Karajan a gassé Hitler. Le Führer lui préférait Wilhelm Furtwängler, dont la jalousie envers Karajan était légendaire.
Ah oui,
évidemment,
plus que légendaire.
Il lui avait pris sa place au départ, ça ne lui a pas plu du tout.
Exact, Valérie. Et de 1939 à 1954, il dirige le Festival de Salzbourg, enregistre avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et le Philharmonia Orchestra, fondé par Walter Legge, dans le but d'enregistrer des disques. Il est nommé à la tête du Philharmonia de Londres en 1948 et il dirige ses fameux maîtres chanteurs et le cycle complet de l'anneau de Nibelung de Wagner au festival de Bayreuth en 1951.
Oui, et alors là, Marie, la chance sourit de nouveau à Van Karajan. Il a quand même beaucoup de chance, ce monsieur. En 1955, alors qu'il est sous contrat à la Scala de Milan, eh bien, Karajan voit la chance de sa vie apparaître. On lui propose de remplacer au pied levé, devinez qui, Marie ?
Furtwängler.
Voilà, Furtwängler à la tête du Philharmonique de Berlin pour une tournée aux États-Unis. Ça, le sacre suprême.
Complètement. Et là, il demande la permission de son directeur qui l'autorise à rejoindre Berlin en dépit de son contrat. Chose dont Karajan lui sera redevable toute sa vie. Toutefois, le chef a les idées bien en place et ne se prend pas pour n'importe qui. Il expose clairement ses conditions. Herbert von Karajan ne fait pas les remplaçants. Il demande ni plus ni moins à être nommé directeur à vie du prestigieux orchestre. Alors qu'on lui refuse, il fait mine de partir, mais il est finalement nommé chef à vie, sans même l'accord des musiciens, parce que ces musiciens du Philharmonique sont assez spéciaux, qui d'habitude, dans le cas du Philharmonique, élisent leur chef.
Ah oui.
Totalement.
Ouais, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, parce qu'il faut quand même travailler chaque jour avec.
Et
personnage comme Karajan, il fallait peut-être le supporter à longueur de journée, ça ne devait pas être facile.
C'est un orchestre très particulier, l'orchestre philharmonique.
Voilà. Donc là, commence pour lui une période de gloire qui s'étendra jusqu'à ce qu'il quitte l'orchestre en 1989. Alors sa nomination, elle signe le départ de Sergiu Celibidache, le chef associé du Philharmonique de Berlin. Karajan vouait une inimitié à Celibidache et il raya son nom de la liste des chefs titulaires du Philharmonique. Pas sympa quand même,
non.
Hein, c'était peut-être un génie de chef d'orchestre, mais bon.
Et d'ailleurs, pour parler de Celibidache, c'est Sir Simon Rattle, l'actuel chef du Philharmonique, qui l'a remis dans la liste des chefs titulaires lorsqu'il est arrivé au de prendre la direction de ce merveilleux orchestre. Et là, ensuite, il prend les commandes du Festival de Salzbourg en 1956, qu'il ne quittera pas jusqu'en 1988. En 1957, il est nommé directeur artistique du Stadttheater de Vienne. De 1961 à 1971, il est directeur artistique de l'Orchestre de Paris. Il est le chef invité favori de la Scala de Milan et le chef régulier de l'Orchestre philharmonique de Vienne.
Pas mal quand même.
Quand même.
Il faut
gérer tout ce temps.
Alors, nous allons écouter ensemble sur Couleur FM 97.1 le concerto pour piano numéro 2 de Sergueï Rachmaninov par le Philharmonique de Berlin avec Alexis Weissenberg au piano.
Thank you.
Une merveille, hein.
Une merveille avec, si Karajan est charismatique, Alexis Wessenberg a tombé.
C'est un personnage.
Oui, tout à fait. Alors, Karajan savait ouvrir les portes aussi à de jeunes talents. Et c'est ainsi qu'en décembre 1976, il auditionne Anne-Sophie Mutter, une toute jeune violoniste, et en février 1978, à 14 ans, elle se produit pour la première fois en soliste avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, où elle interprète le concerto pour violon et orchestre en sol majeur de Mozart.
C'est impressionnant quand même, oui. 14 ans.
14 ans, oui. Et le soir de la Saint-Sylvestre 1988, il dirige Evgeny Kissin, tout juste âgé de 17 ans, dans le concerto pour piano de Tchaïkovski. Et que dire de sa volonté de changer les coutumes de ses musiciens, mais un peu misogyne, moi je dirais très misogyne. Excusez-moi, messieurs,
il y a
mais
quand
voilà.
Même pas mal de défauts, ce
oui.
monsieur.
Sabine Meyer, clarinettiste allemande, est retenue par Karajan pour occuper la place vacante de soliste. Mais Valérie, l'orchestre n'en veut à aucun prix.
C'est quand même, Marie, c'est quand même hallucinant cette attitude. Il faut quand même savoir que le bras de fer se terminera 3 ans plus tard lorsque Sabine Meyer donnera sa démission. C'est quand même vraiment regrettable, quoi.
Ah, oui.
Je veux dire, on en arrivait à se défaire
D'une virtuose, puisque maintenant Sabine Meyer a fait une carrière absolument magnifique. Hein,
donc, et tant mieux pour oui. elle.
C'est un beau pied de nez à ces messieurs.
Mais c'est souvent.
Même si c'est. Ce sont de super musiciens.
Mmh. Oui, mais enfin, ça ne leur donne pas tous les droits pour autant.
Non.
Hein. Quand on est virtuose, qu'on soit homme ou femme. Qu'on se le dise dans voilà. cette émission. Mais écoutons maintenant sur Couleur FM 97.1, Méditation de Thaïs de Jules Massenet par Anne-Sophie Mutter et par le Philharmonique de Berlin. Alors là, c'est tout simplement trop beau. Moi, j'adore ce morceau.
Voilà, c'est trop beau et je souhaiterais dédicacer cette méditation de Thaïs à ma petite Lou qui vient d'être greffée de sa moelle osseuse, voilà, et à sa maman.
Super.
Voilà, parce que je lui en ai parlé ce matin et franchement, je trouve que c'est une musique pour elle. Voilà,
Lou, mes petites puces. On t'envoie tout ça, ma petite Lou, et puis on espère que tu vas très vite te rétablir. En tous les cas, cet extrait musical, rien que pour toi,
voilà.
Ça c'est certain de notre part à toutes les deux. Alors Marie, parlons un petit peu de la vie de ce grand fan
de ce
Karajan,
monsieur,
si tu veux bien.
Oui, alors en 1938, Herbert von Karajan épouse la chanteuse d'opérette Elmy Holgerloff.
Holgerloff,
Je te laisse, moi je parle l'italien, toi tu parles l'allemand. Mais il la quitta en 1942 pour Anita Gutermann, qui avait du sang juif, ce qui n'était pas rien, et qu'il laissa à son tour en 1958 pour un jeune mannequin de 17 ans, française Elliette Moura. Et ils eurent deux enfants. Chef d'orchestre le plus médiatisé du monde, mais aussi homme de pouvoir, voulant tout régir.
Ça, c'est bien classique.
Homme d'affaires innovateur, travailleur intransigeant, par ailleurs fou de voile, de bolide, d'avion et de technologie, tout en étant passionné de yoga, de bouddhisme. Il courait tous les jours et à 75 ans, ne pouvant plus piloter son jet privé, il apprit à piloter un hélicoptère. On se demande où il trouvait
l'énergie et le temps. Et... Oui, mais enfin, généralement, c'est des hyperactifs, ces gens-là. Donc, rien ne les arrête, quoi, jusqu'au jour où ils tombent, quoi. Mais nous allons parler un petit peu de sa discographie maintenant. Hein. C'est
son grand bonheur.
Son dada, on va dire. Donc, au cours de sa vie, Karajan a enregistré environ près d'un millier de disques chez Deutsche Grammophon, DECA. Emmy, qui se sont vendus à plus de 120 millions d'exemplaires. C'est énorme. Ce qui en fait le meilleur vendeur de toute l'histoire de la musique classique. Faut quand même le dire, quoi. C'est pas rien. C'est quand même du grand personnage. Ah oui. Et pour lui, donc, la régie d'enregistrement était sa retraite intime. Un lieu où lui pouvait s'enfermer, où personne ne le dérangeait. Et il était donc passionné par la technologie audiovisuelle de pointe. C'était quand même quelqu'un de très, très intelligent.
Oui, oui.
Hein. Et il disait, au fond, eh bien, je suis né trop tôt.
Je pense qu'il était né trop tôt.
Effectivement, oui. La technologie n'était pas encore arrivée pour lui, mais si il avait été là à notre époque, il aurait peut-être fait encore mieux que ce qu'il a fait là.
Oui, et Karajan a investi plus de temps et d'énergie dans le cinéma et la télévision que n'importe quel chef d'orchestre. Aujourd'hui encore, le langage visuel et les règles qu'il avait mis au point sur la manière de filmer l'orchestre et les solistes, sur la mise en scène de ses propres apparitions, demeurent une référence pour tous ceux qui adaptent des opéras et des concerts à l'écran.
C'est un exemple, quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un, une référence dans ce milieu. Et puis en 1967, il rencontre Henri-Georges Clouzot, qui va le filmer à 5 reprises sous le titre de Herbert von Karajan en répétition et en concert. Mais leur vision esthétique diverge trop et leur collaboration va prendre fin après l'enregistrement du Requiem de Verdi à la Scala de Milan. Alors on va prendre une petite pause musicale de nouveau sur Couleur FM 97.1 avec Ave Verum Corpus de Mozart par le Philharmonia Orchestra avec les chœurs de Vienne. Alors là encore, régalez-vous. Les chœurs de Vienne, hein, c'est pas mal non plus quand même, hein, Marie.
C'est très beau. Et il faut entendre, c'était vraiment un directeur d'acteurs de chant. Il ne voulait surtout pas que les musiciens couvrent la voix des chanteurs. Donc, je trouve qu'il avait l'art de mettre en scène la musique.
Tout à fait.
Il a dirigé et enregistré des œuvres de Beethoven, de Bruckner, Wagner, Mahler et tant d'autres. Aujourd'hui, toute sa production est rassemblée à l'Institut Elliott et Herbert von Karajan à Salzbourg. Tout y est, sans exception, depuis les 78 tours en Gomelac jusqu'aux dernières vidéos qu'il avait produites pour Télémondial, sa propre société de production.
Ouais. Hein. Il produit tout, il fait tout de A à Z, comme ça il est tranquille.
Voilà. Il a travaillé avec pratiquement, donc, tu le disais, tous les grands labels comme EMI, Decca, Sony, Unitel et surtout Deutsche Grammophon. Association qui deviendra mythique à travers des centaines d'enregistrements réalisés pour cet éditeur. On voit constamment apparaître des rééditions de ces enregistrements, car il s'agit des archives les plus importantes d'un artiste-interprète. D'ailleurs, l'édition Karajan en 38 volumes d'EMI est encore sur le marché.
38 volumes quand même, hein. C'est quand même impressionnant.
Oui.
Mais alors malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. La maladie l'oblige à porter un corset et à diriger le dos posé sur un haut tabouret, ce qui ne devait quand même pas être facile et être aussi très douloureux. Donc en 1987, il dirige pour l'unique fois de sa vie le concert du Nouvel An, le dos calé, statique, épuisé par la douleur, vraiment livide. Et puis plus tard, lors d'une répétition, ses musiciens le voient baisser les bras et lâcher sa baguette. Ils se regardent sans bouger, ils n'osent même pas imaginer ce qui se déroule sous leurs yeux. Et Herbert von Karajan leur dit « C'est terminé, je ne peux plus ».
Je l'ai vu raconter par un des musiciens qui le racontait bien des années plus tard. Et les larmes aux yeux.
Oui, ils n'oublieront jamais cet instant.
Hein.
C'est l'instant où le maître s'avoue vaincu. C'est vrai que c'est comme le gladiateur dans l'arène qui tombe devant son combat. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et malheureusement, Karajan s'éteindra le 16 juillet après avoir bu un verre d'eau, simplement, sans bruit. Mais ces enregistrements, 25 ans après, sont toujours aussi magiques. Et c'est donc sur cette cinquième symphonie de Beethoven que nous nous quitterons. Un instant, faisons-nous plaisir sur Couleur FM 97.1 avec la symphonie numéro 5, Allegro con brio de Beethoven par le Philharmonia Orchestra. Thank you. petite anecdote.
Alors, je vais vous en dire une parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Leonard Bernstein, Carl Baum et donc Herbert von Karajan, c'était les trois chefs d'orchestre, se rencontrent. Ils entrent en discussion pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand chef d'orchestre. Carl Baum déclare « C'est moi ». Et Bernstein le contredit en revendiquant le titre. Alors Baum demande à Bernstein de qui il tient une telle information. Et Bernstein répond avec son sourire enjôleur « C'est Dieu qui me l'a dit ». À cet instant, Karajan intervient, il dit « Mais moi, je n'ai jamais rien prétendu de tel !» Bon, voilà, vraiment, c'était l'égocentrisme de Karajan.
Marie, je crois qu'on peut dire que, d'un point de vue purement technique, la direction de Karajan est notoirement caractéristique par deux aspects. Alors, tout d'abord, l'attention extrême portée à la sonorité, hein, elle a, par un travail qui est intensif, de longue haleine, avec un seul orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dont d'ailleurs il fut le chef de 1955 à 1989. Il parvint à ciseler l'un de ses orchestres les plus esthétiques du monde, avec violon à la sonorité de cristal, des flûtes au son boisé ou des trombones à la résonance d'or. Le son Karajan, c'est d'abord une incomparable beauté sonore, un hédonisme du son ravageur, allié à la précision hors du commun d'un orchestre de très haut niveau. Alors, outre la pure beauté sonore, la deuxième caractéristique purement esthétique de la direction de Karajan se trouve, elle, dans un phrasé fluide, dans lequel les notes sont souvent liées les unes aux autres, donnant une impression d'aérodynamisme sonore qui est aussi l'une de ses marques de fabrique.
Oui, et au-delà de ses qualités musicales intrinsèques, ce chef entre deux mondes, pas tout à fait dans son époque, plus tout à fait dans la précédente, a sans doute grandement contribué à jouer le rôle de passeur entre tradition et modernité dans l'interprétation du grand répertoire traditionnel.
Alors Marie, je vais te laisser conclure par une petite phrase que tu aimes.
Oui, Karajan était à la fois un esthète, un perfectionniste et un pionnier.
C'est vrai.
Selon le chef d'orchestre Sir Georg Scholti, Herbert von Karajan était l'autorité musicale la plus puissante depuis Wagner.
Quand même. Eh bien voilà, Marie, notre émission touche à sa fin. Nous espérons vous avoir fait plaisir en abordant ce sujet. Et puis, rapidement, avant de vous quitter, on a une nouvelle petite rubrique qu'on a instaurée dans notre émission, que nous avons appelée « Les petits potins du classique en Rhône-Alpes » et qui servent à vous informer de ce qui se passe en classique sur notre territoire. Vous pouvez aussi regarder sur le site de Couleur FM à la rubrique « Au fil des notes », on vous a remis l'ensemble de ces informations. Donc, vous pourrez voir le mardi 14 octobre 2014 au Théâtre Sainte-Hélène, dit rue Sainte-Hélène à Lyon 2, le Shakespeare Still in Love. C'est un air extrait de The Fairy Queen, Timon of Athens, King Arthur de Purcell, extrait de Songes d'une nuit d'été, les sonnets, la nuit des rois, peine d'amour perdue de Shakespeare, Shakespeare in Love s'offre un nouveau souffle. Rappelez-vous cette ballade amoureuse réunissant les univers poétiques de William Shakespeare et de Henri Purcell. Au fil des sonnettes de l'écrivain et des songs du compositeur, l'amour prend de multiples formes. Léger, libertin, mais aussi grave et bouleversant, Shakespeare, Still in Love, prend une forme scénique et chorégraphique inédite. La vidéo s'invite à ce voyage pluridisciplinaire, mêlant déjà le théâtre, la poésie, la musique et la danse, en menant le spectacle aussi au pays des ombres et des lumières, projetant le spectateur dans un ailleurs incertain et sensible. Voilà un beau spectacle à aller voir. Vous avez aussi Bach, Coltrane, le vendredi 17 octobre 2014, au Temple du Change, 2 rue de la Loge, à Lyon 5e. Là, Raphaël Imbert, saxophoniste et jazzman, avec André Rossi, organiste et professeur d'improvisation baroque, ont constaté les liens forts qui unissent leurs pratiques artistiques, pourtant si éloignées dans le temps, improvisation pour la pratique, spiritualité pour l'inspiration. Ils ont exploré ces relations, mis en valeur les rapports dynamiques partagés par le jazz et la musique baroque et constaté naturellement cette résonance inouïe entre Bach et Coltrane. Donc là encore, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ensuite, Hendel, Apollo et Daphné, le mercredi 5 novembre 2014 à l'église Saint-Bruno des Chartreux, rue Pierre-Dupont, Lyon 1er. Là encore, le jeune Handel fait donner à Venise son opéra Agrippina, c'est un succès. Le compositeur boucle ainsi à Venise son opéra. C'est aussi lors de ce séjour qu'il compose la cantate Apollo et Daphné, cette fable érotico-dramatique inspirée des métamorphoses d'Ovide fournit à Handel l'occasion de composer une musique inventive et contrastée où l'écriture vocale exigeante illustre la diversité des sentiments des deux personnages. Vous avez les lauréats 2013 du concours international de chant baroque de Froville, Raquel Camarina et Romain Beauclair, qui interprètent là et révèlent la dignité outragée de Daphné comme le désir et le désespoir d'Apollo. Voilà, eh bien, vous avez de quoi vous satisfaire pendant un petit moment concernant tous les spectacles que vous pouvez voir sur la région. N'hésitez pas pour les professionnels, on le dit et on le répète, mais bon, apparemment, on n'a pas de retour par mail. Manifestez-vous si vous avez un spectacle qui se déroule sur le territoire Nord-Isère ou Rhône-Alpes. Envoyez-nous un mail. N'hésitez pas, nous présenterons votre spectacle dans notre nouvelle rubrique « Les petits potins du classique en Rhône-Alpes ». Marie, encore une petite chose
oui,
pour terminer.
Je voudrais simplement dire, si vous avez aimé Karajan, si vous avez aimé les musiques que vous avez écoutées, il y a un disque magnifique avec Herbert von Karajan, entouré de David Oistrakh au violon, Mislav Rostropovich au violoncelle et Zlatoslav Richter au piano, dans le triple concerto de Beethoven. C'est un bijou.
D'accord.
Un bijou. Réunir ces quatre personnages en même temps, c'est vraiment un bijou. Et il est toujours, bien sûr, réédité. Voilà.
Bon, eh ben, on a de quoi se faire plaisir,
hein,
au classique. Allons-y. Donc, nous vous souhaitons de très bons moments avec cette émission. Vous avez la possibilité de la réécouter aussi sur le site de Couleur FM. Hein. N'hésitez pas. Vous allez dans la rubrique Au fil des notes et vous pouvez écouter toutes nos émissions. Hein. Nous vous souhaitons une bonne continuation et puis à très bientôt.
À très bientôt, Valérie.
Voilà, à bientôt, Marie.
À
merci.
Bientôt,
merci
amis.
Aussi.
Au revoir.
À Laurent, et puis passez un bon mois. À bientôt.
À bientôt.